Vous allez suivre une conférence de l'Agora des Savoirs, une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
L'interrogation de l'être humain,
la création de l'univers,
des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
Du 3 novembre au 8 juin, les mercredis à 20h30, salle Rabelais, la ville de Montpellier propose une trentaine de conférences destinées au grand public.
Que voulez-vous, madame? Pour vous, nous avons le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Divergence FM diffuse les conférences en direct sur le 93.9.
Avec quoi est-ce que nous pouvons nous connaître, sinon avec notre propre connaissance?
Ce mercredi 16 mars à 20h30, à quoi sert l'identité nationale? La notion d'identité nationale s'est fixée au 19e siècle, lorsque les États-nations ont imposé le grand partage entre les nationaux, nous, et les étrangers, eux. C'est au début de la Troisième République que le discours nationaliste commence à présenter l'immigration comme un problème. L'historien Gérard Noiriel tentera de l'expliquer sous l'angle de l'histoire.
Merci beaucoup pour cette présentation et aussi pour cette invitation. Et merci d'être venus si nombreux malgré la pluie, parce qu'on m'a dit que quand il pleuvait beaucoup à Montpellier, ça affectait l'assistance. Particulièrement content. Enfin, je viens assez souvent à Montpellier et je dirais que c'est l'une des seules villes de France où j'ai pu intervenir, je dirais, à différents niveaux, c'est-à-dire dans des cadres aussi prestigieux que celui-ci, mais aussi dans le cadre d'activités, d'associations de quartier, comme je l'ai fait au mois de novembre à La Paillade, avec des acteurs socioculturels. Donc, on a vraiment le sentiment de pouvoir, grâce à vous, assumer les différents aspects du rôle que j'essaye de jouer, à la fois sur le plan scientifique et sur le plan civique. Je voulais m'excuser aussi parce que je suis fortement enrhumé, donc je ferai peut-être preuve de moins de tonus que d'habitude, mais ce n'est pas par manque de patience, c'est plutôt par manque d'énergie. Enfin, je voulais saluer moi aussi l'exposition de RSF, la Fabrique des Sans-Papiers, puisque je la soutiens de toute ma force. Et je trouve extrêmement important, vous l'avez rappelé un peu tout à l'heure, que les enseignants, les chercheurs puissent aussi travailler avec des artistes. La place des artistes dans la vie publique est extrêmement importante et nous avons besoin de rassembler toutes les forces aujourd'hui pour développer la solidarité à l'égard de ceux qui sont en situation d'exclusion. Alors, j'ai choisi pour cette intervention l'intitulé que j'avais donné à un petit livre paru chez Agone, « À quoi sert l'identité nationale ?» Effectivement, pour aborder la question de la nation, non pas à partir de la classique question sur qu'est-ce qu'une nation, je vais y revenir quand même tout à l'heure, mais je pense qu'aujourd'hui, dans la recherche, depuis les années 80, on s'interroge beaucoup plus sur les usages que sur les définitions. Donc, à quoi sert l'identité nationale? Voilà, la question est de savoir quels sont les usages que les citoyens, ou les acteurs collectifs ou les politiques fond de cette notion, pourquoi est-elle apparue, qu'est-ce qu'elle signifie à partir des enjeux politiques de différentes époques. Donc évidemment, c'est effectivement une question que j'ai à cœur depuis le début de mes recherches. Moi, j'ai commencé, je dirais, mes recherches, c'est-à-dire le choix que j'ai fait donc, pour ma thèse, au tout début des années 80, à une époque justement où on a vu surgir un phénomène qui nous apparaissait complètement, je dirais, incompréhensible pour les gens de ma génération. C'était donc l'émergence du Front National, donc d'un retour du nationalisme. Pour moi, donc, qui suis né en 1950, après la guerre, eh bien, toutes ces questions-là, c'était des choses qui dataient de la génération de nos parents, qu'on avait vu, enfin, dont on avait le souvenir par le biais de ce qu'ils nous avaient raconté, les années 30, Vichy, etc. Et donc, le choc que j'ai personnellement ressenti face à ce retour, disons, de l'extrême droite, j'y reviendrai tout à l'heure, mais je signale que l'expression identité nationale a été mise en circulation en France par le Front National. C'est ce que j'ai montré dans ce petit livre dont je vous parlais. Eh bien, c'est ce choc, ce questionnement qui, au départ, est un questionnement de citoyen, qui a orienté, je dirais, mes recherches et qui m'a incité donc à publier ou à travailler sur la question de l'immigration. Et quand on étudie l'immigration, c'est ce que j'essaierai de montrer aussi tout à l'heure, nécessairement, on est amené à s'interroger sur le fait national. Mais évidemment, l'une des grandes difficultés à laquelle on se heurte, c'est le va-et-vient entre l'autonomie de la recherche et les pressions de l'actualité. On ne peut pas, comme je viens de le dire, d'un côté étudier ce genre de choses sans en être préoccupé en tant que citoyen, et en même temps, on doit faire un travail parfois contre soi-même pour prendre une distance par rapport à l'actualité, afin de garder une lucidité, en tout cas une démarche de type scientifique. Il n'existe pas de démarche scientifique sans distance par rapport à l'actualité. Et je dirais que depuis donc les années 80, pour moi, ça a toujours été un grand problème, notamment dans mes relations avec les journalistes. Parce que très souvent, évidemment, mais c'est le métier de journaliste aussi qui veut ça, je ne critique pas, j'essaie de distinguer des métiers, eh bien, les journalistes nous demandent de répondre à des questions qui, elles, sont au cœur de l'actualité. Par exemple, sur le fameux problème de l'immigration. Or, mes recherches, mais aussi les recherches de mes collègues, aboutissent toujours à la conclusion que c'est un faux problème. D'un point de vue scientifique, c'est un faux problème, mais d'un point de vue politique ou médiatique, c'est un vrai problème. Donc on a là une difficulté, et je le souligne toujours en introduction de mon exposé, pour justement montrer, le travail à la fois intellectuel, mais je dirais aussi civique, que représente cette gymnastique de va-et-vient entre les questions que tout le monde se pose ou dont tout le monde a entendu parler et la nécessaire investigation scientifique. Alors, je commencerai d'abord par faire un certain nombre de rappels, étant entendu que je laisserai une large place à la discussion, donc on pourra approfondir tel ou tel point. Mais je crois qu'il faut quand même commencer par rappeler un certain nombre de choses sur le concept même de nation. Donc ce sera mon premier point. Je reprendrai donc le débat sur la nation. Donc qu'est-ce qu'une nation ? Non pas en donnant ma définition, mais en montrant comment des définitions successives ont été proposées depuis le XVIIIe siècle. Donc le mot nation, c'est un terme ancien qui vient du Moyen-Âge, qui vient du latin natio, veut dire naître, donc qui renvoie à la naissance. Donc d'emblée, voyez, le mot nation renvoie à l'origine, il y a toujours eu un rapport entre les deux termes. Mais je dirais que pendant longtemps, en gros jusqu'au XVIIIe siècle, eh bien, il n'y avait pas vraiment de différence entre nation et race, par exemple. Le terme nation était un de ces termes assez flou, assez vague, pour désigner une communauté rassemblant des individus de même origine. Mais il se passe un événement tout à fait majeur au milieu du XVIIIe siècle, c'est la philosophie des Lumières, c'est tout ce mouvement intellectuel qui va aboutir à la Révolution française et qui provoque une politisation du terme « nation ». Donc c'est un moment, je crois, décisif. Je situerai, si vous voulez, si on veut donner une petite chronologie, la période qui va de 1770 à 1810 comme le moment décisif dans la fabrication des définitions de la nation. Et géographiquement, je situerai trois pôles. Le pôle français, donc sur lequel je vais revenir, lié au mouvement des Lumières, la Révolution française, mais aussi un pôle américain, qu'il ne faut pas oublier, tout le mouvement de lutte qui va aboutir aux indépendances en Amérique, et puis le pôle allemand. Nous avons là un triangle, et c'est dans les échanges. On oublie souvent ça aujourd'hui. Il y a une circulation des idées, des références extrêmement importantes dès le XVIIIe siècle, et le concept de nation, le concept moderne de nation, le concept politique de nation, va s'élaborer par des échanges entre ces trois pôles. Alors, très schématiquement, l'apport, j'allais dire, français, c'est, je dirais, une sorte de définition sociale de la nation. C'est-à-dire, la nation, c'est le tiers-État, c'est le peuple. Hein. Et donc, lorsque vous avez toutes ces brochures qui paraissent avant la Révolution, ou celle de l'abbé Sieyès, par exemple, sur le tiers-état, eh bien, on voit très nettement qu'on a un concept de nation qui est centré sur la lutte sociale, c'est-à-dire, en gros, le tiers-état, le peuple, pensé comme représentant la nation au détriment des nobles, qui sont vus comme ou dénoncés comme un corps extérieur. Et il y a cette fameuse phrase de l'abbé Sieyès disant que les nobles doivent retourner dans leur forêt de Franconie. Bon, donc ça évoque tout un débat qui avait agité les historiens depuis le XVIIIe siècle sur les origines de la France, opposant les Francs aux Gaulois, etc. Bon, je n'entre pas dans ce débat-là, ça m'amènerait trop loin. Mais il y a donc toute une réflexion qui surgit à ce moment-là et qui amène à cette définition donc, qui va s'imposer avec la Révolution française et sur laquelle on vit encore en partie en France. C'est le concept de souveraineté nationale, le peuple souverain. Donc la définition même de la citoyenneté telle qu'elle s'est imposée en France part de ce moment fondateur. Pour simplifier, je n'évoquerai pas beaucoup le contexte américain. Je prendrai comme deuxième référence la situation en Allemagne, parce qu'elle va avoir une très grande importance. Les philosophes allemands vont, je dirais, enrichir, compléter et en même temps critiquer la définition française à partir d'une expérience qu'ils ont vécue très douloureusement, c'est l'occupation de leur territoire par les armées françaises, républicaines d'abord et puis napoléoniennes ensuite. Donc ils découvrent qu'au nom des principes républicains, au nom de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on leur impose un pouvoir extérieur. Et donc ça va inciter ces philosophes qui avaient été tous fascinés et enthousiasmés par la Révolution française. Eh bien, ça va les inciter à repenser le concept de nation et développer une définition qu'on appelle parfois, je pense que ce n'est pas juste ce mot, mais je vous le donne parce que celui qu'on retrouve le plus souvent, une définition ethnique de la nation, une définition culturelle de la nation, qui vise, ce que les Français n'avaient pas du tout fait, à dégager des critères de définition d'un peuple. Qu'est-ce qu'un peuple ? Un peuple, ce n'est pas simplement une classe sociale ou un groupe social, c'est aussi un ensemble d'individus qui vont se définir par des critères de type linguistique, de type historique, tradition, culture, etc. etc. Et donc, on a cet apport, je dirais, de l'Allemagne qui va être extrêmement important. Et il ne faut pas voir ces deux positions que je viens de dénoncer, la position française et la position allemande, comme ayant vécu pendant jusqu'aujourd'hui sans lien. Au contraire, d'abord, la définition allemande a été beaucoup marquée par ce qui s'était passé en France, et ensuite, on constate en France qu'un certain nombre d'intellectuels, notamment des historiens comme Jules Michelet, vont reprendre à leur compte les élaborations allemandes et vont chercher aussi à définir la nation française à partir de critères culturels et historiques. Alors vous avez un mot important qui permet d'illustrer ce que je viens de vous dire, c'est le mot que les philosophes allemands, notamment l'un d'entre eux, qui s'appelait Friedrich Jahn, a forgé, donc c'est un néologisme même dans la langue allemande, c'est le mot « Volkstum ». Alors c'est intéressant, le jeu linguistique, vous savez peut-être que le philosophe comme Hegel ont germanisé beaucoup leur vocabulaire justement par patriotisme, hein, pour se dégager des influences françaises. Et Volkstum, c'est une tentative pour forger un vocabulaire dont les Allemands avaient hérité avec le concept de nation, pour le remplacer par folk. Donc on a toute une série de mots en allemand où on trouve le terme folk, qui est une volonté de germaniser le vocabulaire national français. Et ce terme de Volkstum, eh bien pour moi, c'est la première définition de l'identité nationale. En gros, pour Jahn, le Volkstum, c'est la personnalité d'un peuple, l'intelligence d'un peuple. Donc, il essaye de dégager les critères qui font que, eh bien, les Allemands ont une identité, que l'Allemagne forme une nation, bien qu'il n'y ait pas encore d'État allemand. Et ce qui est très intéressant, c'est le livre de Yann va être traduit en français en 1825, donc 15 ans après sa première édition, et le traducteur va être très embarrassé pour traduire Volkstum, et finalement, eh bien, dire « j'ai fabriqué, j'ai inventé un mot, je m'en excuse auprès de mes lecteurs, c'est un néologisme, et ce mot c'est « nationalité ». Donc le mot « nationalité » est apparu dans la langue française, vous voyez, au départ, pour traduire « Volkstum ». Donc, au départ, le mot « nationalité », ce n'est pas un concept juridique, ça deviendra vraiment un concept juridique seulement, vraiment central, sous la Troisième République, mais à ce moment-là, le terme de « nationalité » est plutôt utilisé pour désigner eh bien, la spécificité, la personnalité de la France. Et l'historien qui va jouer un rôle majeur à cette époque pour dire ce qu'est la France, c'est l'historien Jules Michelet, le grand historien républicain, et il va dire, eh bien, l'Allemagne est une race, l'Angleterre est un empire, et la France est une personne. Donc c'est cette définition de la France comme une personne qui s'impose à ce moment-là, et là on est bien dans l'identité, hein, c'est, et d'ailleurs toute une série de problèmes viennent de là, c'est-à-dire la confusion entre une personne, entre un individu et un collectif, évidemment, pose tout à fait problème. Mais dans la perspective de Michelet, il faut bien voir qu'à cette époque-là, les partisans de la nation sont des gens qu'on dirait à gauche, voire à l'extrême gauche. Nous sommes dans un contexte dominé par les empires, par les monarchies, et les partisans de la nation s'inscrivent dans l'héritage de la Révolution française, et donc luttent pour les idéaux de liberté, d'indépendance, et donc le terme de nation est connoté plutôt de manière progressiste. C'est pour ça que chez Michelet, par exemple, il considère que la nation française est à construire, qu'elle est en perpétuelle gestation. Michelet voit les choses comme ça, c'est vraiment l'esprit des Lumières. Il dit « la lumière est au centre », donc évidemment c'est aussi une justification du rôle des intellectuels. Hein. La ville Lumière, c'est Paris, et depuis le centre, eh bien, il va y avoir justement une diffusion de la nationalité française qui va se répandre dans toute la société. Donc on a à ce moment-là une première définition de la nation qui s'inscrit dans un contexte politique dominé par ce qu'on a appelé le principe des nationalités. Le principe des nationalités, c'est donc les premières luttes pour l'indépendance nationale qui se développent un peu partout en Europe et qui vont aboutir à une répression très forte, notamment en 1848, les révolutions de 1848, qui se terminent par des massacres et par l'échec de ce qu'on a appelé aussi le printemps des peuples. Donc vous voyez que là, on a une histoire qui, évidemment, débute et qui va se répéter par la suite, pratiquement de manière ininterrompue jusqu'à aujourd'hui, avec les luttes de décolonisation, etc., qui se font donc au nom de la nation, au nom de la liberté, de l'indépendance d'une nation. Mais se produit un tournant tout à fait fondamental en 1870, c'est la guerre entre la France et la Prusse. La guerre entre la France et la Prusse va avoir un effet totalement essentiel dans la redéfinition de la nation. C'est-à-dire, on va passer globalement d'une vision qui était plutôt à gauche, qui était progressiste, vers une vision à droite, une vision conservatrice. Et ça, c'est un phénomène qu'on constate pratiquement partout, et notamment en France. C'est-à-dire que, alors dans le cas français, 1870, évidemment, c'est un traumatisme, puisque la France se considérait à l'époque comme la plus grande puissance du monde, hein, il faut bien le voir. Et la France avait, les intellectuels français comme Renan, etc., avaient encouragé l'unité allemande. Ils avaient encouragé les mouvements d'émancipation en Allemagne. Et Bismarck déclare la guerre à la France au nom de l'unité allemande. Donc, on voit toute une série de discours qui se développent en disant, bien, nous avons été dupes de notre générosité. Donc, il y a tout ce discours sur la naïveté des Français, leur générosité, etc., etc., qui aboutit à dire, eh bien, maintenant, c'est terminé, nous allons défendre nos intérêts d'abord. Et donc, le concept de nation se transforme et désormais, on va passer à une autre époque que j'ai appelé une époque caractérisée par la nationalisation de la société française. Donc ce concept de nationalisation, pour moi, il va bien au-delà d'un discours idéologique. C'est bien plus profond que des propos nationalistes. C'est une pénétration des représentations, mais aussi des pratiques au niveau du droit, au niveau de l'économie, au niveau de la culture, des références nationales. Et c'est tout ce processus sur lequel j'ai particulièrement travaillé, parce que c'est de ce processus qu'est née l'immigration en tant que phénomène politique majeur. Alors il faut que je dise maintenant donc quelques mots sur les débuts de la Troisième République, parce qu'évidemment ce phénomène dont je viens de parler se produit en même temps qu'émerge la Troisième République. 1870, c'est l'échec de Napoléon III, puisque c'était lui le chef de l'État jusque-là. Il est donc remplacé par les militants républicains, comme Gambetta, le grand homme de l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que le programme républicain, c'est un programme de démocratisation de la société française. Mais il faut bien voir que la démocratisation est une dimension de la nationalisation de la société. Ça, c'est une chose qui est souvent assez difficile à expliquer. C'est-à-dire que dans la perspective républicaine que j'évoquais tout à l'heure à propos de la Révolution française, l'idée de souveraineté nationale, l'idée de citoyenneté implique que toutes les couches de la nation sont partie prenante de la vie de l'État. Or, Napoléon III, la société française sous le Second Empire, c'était une société où le clivage fondamental opposait les classes populaires et les élites. Le « eux et nous », si vous voulez, le fossé majeur ne séparait pas les Français et les étrangers, il séparait les classes populaires et les élites. Ce qui fait que jusque dans les années 1880, par exemple, on ne savait pas au sein des classes populaires qui était français, qui ne l'était pas. Ça n'intéressait strictement personne. Il n'y avait d'ailleurs aucun intérêt particulier à se dire français à l'époque. Il pouvait y avoir que des désavantages, parce que si on tirait un mauvais numéro, vous voyez, on pouvait être expédié au service militaire, ça pouvait durer 3, 5, 7 ans. En même temps, il faut bien voir que ce qu'on appelait la qualité de français, telle qu'elle était fixée dans le code civil à l'époque, permettait à un enfant d'étranger, dès qu'il arrivait à l'âge adulte, de récuser la qualité de français. Et plus de 80% des enfants d'étrangers, quand ils arrivaient à l'âge adulte, au moment de la conscription, disaient « mais moi, je ne suis pas français ». Et on avait comme ça des sortes de communautés, vous voyez, un peu mixtes, qui se reproduisaient de génération en génération. Et ça, d'ailleurs, notamment, évidemment, le nord de la France et dans le sud-est, parce que c'est là, à cause des relations frontalières, dans le nord, il y avait beaucoup de Belges, dans le sud-est, beaucoup d'Italiens. C'est là qu'on voit naître, d'ailleurs, une première forme de xénophobie, parce que, dans les classes populaires, eh bien, les gens qui ne pouvaient pas invoquer le fait qu'ils avaient des parents ou des grands-parents étrangers, ils étaient confrontés au service militaire, alors que les autres ne le faisaient pas. Et souvent, les patrons privilégiaient dans l'embauche des jeunes dont ils savaient qu'ils n'iraient pas faire le service militaire pour pouvoir les garder en apprentissage. Donc, il y a là, vous voyez, une réalité, on a du mal à comprendre aujourd'hui, qui était celle de la France jusqu'en 1870, où on considérait que la nationalité, disons, on ne disait pas encore comme ça, on disait la qualité de français, elle appartenait d'abord aux citoyens. C'était un pouvoir du père de famille ou de la famille, et donc l'État n'avait pas le droit d'imposer une nationalité à un individu. On pouvait donc, à l'âge adulte, à chaque fois, eh bien, choisir de garder sa fidélité, comme on disait, à son ancienne patrie. Alors, ce phénomène-là va dénoncé par les républicains. En même temps, il y a un autre phénomène très important de l'époque, c'est que Napoléon III avait refusé d'interner les immigrés allemands qui vivaient en France. Et il y avait beaucoup d'immigrés allemands qui vivaient en France. Par exemple, tous les balayeurs à Paris, tous les gens de service, aussi les domestiques, venaient donc d'outre-Rhin. Et Napoléon III a dit « Je fais la guerre au prince, je ne fais pas la guerre au peuple ». Vous voyez, on voit bien comment l'idéologie républicaine, elle ne peut pas raisonner comme ça, puisque dans les principes républicains, la citoyenneté, ce sont les peuples qui font les guerres. Hein. Donc tout le monde est concerné finalement. Alors dans une logique aristocratique, dans un principe dynastique, eh bien, vous voyez, il n'y a pas cette implication. Et donc les républicains, quand ils sont arrivés au pouvoir, ont dénoncé Napoléon III en lui disant « C'est parce que vous n'avez pas enfermé les immigrés allemands que nous avons perdu la guerre, parce que parmi ces immigrés, il y avait des espions et ils ont facilité l'entrée des troupes prussiennes en France et c'est pour ça que nous avons perdu la guerre. » Il y a eu toute cette mythologie qui a d'ailleurs suscité après un nombre faramineux de lois contre les espions, etc., qui, vous voyez, nous annonce déjà un certain nombre de choses qu'on entend encore aujourd'hui sur les ennemis de l'intérieur, etc., et qui commence à s'énoncer, je dirais, de manière forte, au début de la Troisième République. Donc on a un processus qui se met en place, qui est intégration des classes populaires au sein de l'État, puisque tous les citoyens, tous les Français sont citoyens, donc ils ont des droits. Donc, on leur donne des droits. Eh bien, par exemple, démocratisation du droit de vote. Le droit de vote existait déjà depuis 1848, mais il est démocratisé. Liberté de la presse, liberté de réunion. Et en même temps, en contrepartie, droit et devoir, eh bien, progressivement, on impose le service militaire obligatoire pour l'ensemble des citoyens. L'idée de Gambetta, c'est de dire... Si on fait participer le peuple à la vie politique, on va mettre fin aux révolutions, parce que c'était le gros problème de la France depuis 1789, la répétition des révolutions. Et d'autre part, eh bien, si tous les citoyens sont dans l'armée, on aura une armée puissante et on pourra enfin prendre notre revanche contre l'Allemagne. Donc voilà un petit peu le schéma qui se met en place. Et donc, dans cette perspective, on voit un déplacement de la frontière, on pourrait dire, alors que la frontière était essentiellement sociale au début, entre les classes populaires et les élites, la frontière devient maintenant éminemment nationale. Et c'est à ce moment-là que se met en place l'opposition entre nous, Français, et eux, les étrangers. L'élément essentiel, alors c'est là que se construit, si vous voulez, toute une série d'éléments qui existent encore aujourd'hui, qui relèvent de l'inculcation de ce que pourrait appeler une identité nationale, c'est-à-dire des références nationales qui sont connues désormais de tous les Français. C'est par l'enseignement de l'histoire, réforme de l'enseignement, désormais l'enseignement de l'histoire devient ce qu'on appelle un roman national, tous les petits Français apprennent la même chose, etc. Mais c'est aussi par le biais de la presse, puisque tous les petits Français savent lire et écrire, on voit une explosion des journaux et l'apparition des journaux de masse qui jouent un rôle qui est assez comparable à celui des médias aujourd'hui, sauf qu'évidemment les médias aujourd'hui, la radio, la télévision sont plus puissants que les journaux de l'époque, mais on a toute une série de thématiques sur les faits divers, sur la dénonciation des immigrés, etc., qui commencent à faire son apparition. Donc, deux éléments viennent s'ajouter à cela, parce que quand on parle d'identité, évidemment, une identité se détermine toujours par opposition. Il faut deux facteurs pour la construction d'une identité. C'est valable pour les individus comme pour les groupes. Il faut une mémoire, un passé, d'où le rôle essentiel que l'histoire va jouer sous la Troisième République. Et puis, il faut être capable de nommer l'ennemi. C'est-à-dire de nommer celui à l'égard duquel on s'oppose, par rapport auquel on s'oppose. Et là, l'étranger prend à partir de ce moment-là deux figures. La première figure, c'est le colonisé, c'est les débuts aussi de la colonisation. La République bascule dans l'empire colonial dans les années 80, à partir d'un fameux discours de Jules Ferry en 1885, où il justifie l'occupation du Tonkin au nom du devoir de la race supérieure, hein, c'est l'expression qui l'emporte, qui l'utilise. Et puis d'autre part, au même moment, c'est les débuts de l'immigration de masse. C'est-à-dire que les élites découvrent que eh bien, les Français commencent à faire de moins en moins d'enfants. On commence à découvrir que les Français, ils veulent bien être paysans à condition d'être propriétaires, mais ils veulent pas travailler au fond de la mine, etc. Donc, c'est le début d'une immigration de masse. Et la France devient, dès cette époque, l'un des principaux pays d'immigration du monde. Et on a des études d'économistes de cette époque-là qui disent déjà, dès cette époque, eh bien, la France ne pourra pas développer son industrie sans un appel massif à l'immigration. Et dans ce contexte, vous voyez, on voit surgir donc le rôle du droit. Et c'est à ce moment-là, en 1889, qu'est adoptée la première grande loi sur la nationalité française. C'est la loi sur laquelle nous vivons encore aujourd'hui, ce qu'on appelle le Code de la nationalité. Et cette loi, on l'oublie souvent, j'ai beaucoup insisté là-dessus parce que même certains de mes collègues avaient tendance à l'oublier en présentant cette loi comme une loi très généreuse, etc. C'est vrai que c'est une loi qui va faciliter l'accession à la nationalité française, notamment pour les enfants d'étrangers, qui peuvent devenir quasiment ceux qui sont nés en France automatiquement, pas automatiquement, mais facilement français à la majorité. Mais en même temps, cette loi va interdire aux enfants d'étrangers de choisir leur nationalité. Donc cette possibilité qui était accordée aux familles auparavant cesse quand vous êtes ce qu'on appelle le double jus soli, né en France de parents étrangers, eux-mêmes nés en France, vous êtes automatiquement français. Et ce sera l'une des raisons de l'animosité qui va se développer entre France, pays d'immigration, et l'Italie ou l'Allemagne, pays d'émigration. Il y a une sorte de lutte pour l'annexion des populations à travers le droit. Donc, c'est dans ce contexte, si vous voulez, que se construit, on pourrait dire, l'essentiel du lexique qu'on retrouve encore aujourd'hui par rapport à la question de l'identité nationale. L'immigration, le mot immigration, surgit dans le vocabulaire français, mais d'une manière extrêmement brutale, à partir d'un événement clé qui a eu lieu à Marseille en 1881. Donc, je dis souvent... C'est un peu peut-être une déformation professionnelle d'historien, mais de temps en temps, on aime bien donner des dates. Je dis 17 juin 1881, ce qui s'est produit à Marseille, ce que les historiens appellent les vêpres marseillaises. C'est une rixe à travers les rues de Marseille où la population marseillaise poursuit pendant toute une semaine les immigrés italiens de la ville parce que un petit nombre d'entre eux ont eu l'outrecuidance de siffler l'hymne national. Alors, c'est très intéressant parce que, vous voyez, cette symbolique d'immigrés ou d'enfants d'immigrés sifflant l'hymne national, ça nous rappelle quelque chose, hein, puis ce sont des choses dont l'actualité a parlé très récemment, mais qui ne sont pas nouvelles du tout. Pour moi, c'est constitutif de tout ce débat sur l'immigration. Et je dis souvent qu'en fait, l'immigration, c'est un miroir tendu à l'identité nationale. C'est-à-dire, c'est parler de nous-mêmes en tant que Français quand on parle de l'immigration. Et donc, cet événement des vêpres marseillaises a pour moi une valeur fondatrice. Parce que auparavant, il y en avait déjà eu des rixes comme ça, des affrontements entre des ouvriers venant de différents pays. Mais ça n'intéressait pas les élites. C'est ça la grande différence. Or, désormais, ça fait la une des journaux. Les politiques s'en emparent, ça devient un enjeu électoral. Donc on voit deux thématiques qui sont encore celles qu'on connaît encore aujourd'hui. Première thématique, le contrôle des frontières. On voit un député qui dit, mais où est la police aux frontières? Combien il y en a de ces étrangers? Et à l'époque, il n'y avait pas de statistiques. On ne savait pas combien il y avait d'étrangers en France. D'où branle-bas de combat, on commence à faire des statistiques, etc. Et c'est comme ça qu'apparaissent toutes ces... cette législation qu'on connaît aujourd'hui sur l'identification des étrangers. Deuxième tête de chapitre, c'est... Mais comment se fait-il alors ces Italiens? La plupart étaient piémontais, hein, mais... ils sont dans la région marseillaise, en Provence, mais depuis 20 ans. Parce que c'est vrai que l'immigration avait commencé dans la région, surtout à partir des années 1860. 20 ans après, ils sifflent encore le drapeau. Mais c'est qu'ils ne sont pas... Alors, on ne disait pas intégrés à l'époque, on disait assimilés. C'est qu'ils ne sont pas assimilés. D'où nécessité d'un programme politique visant à les assimiler. Et la loi de 1889 sur la nationalité française est en fait, on pourrait dire, une loi qui a pour objectif d'assimiler les étrangers, en faisant en sorte qu'ils ne puissent plus revendiquer leur nationalité d'origine à leur majorité. Donc on voit que cette période est tout à fait charnière parce que, je dirais, que tous les éléments modernes de la France qu'on retrouve encore aujourd'hui se mettent en place. Alors évidemment, c'est aussi les débuts, on pourrait dire, de la xénophobie, du racisme. La première forme de racisme qui se développe en France, c'est l'antisémitisme, à partir donc de l'ouvrage d'Édouard Drumont, qui était un journaliste mais qui se présentait comme un penseur, qui écrit un ouvrage qui s'appelle « La France juive », qui est un pamphlet d'une incroyable sauvagerie, violence, raciste, qui vise à présenter les juifs comme une race à part, qui ne se serait jamais assimilé, intégré dans la société française, qui menacerait les Français et qu'il faut donc éliminer. On a là tout le programme antisémite qui commence à se mettre en place, qui aboutira aux horreurs du XXe siècle. Et puis on a aussi des formes de xénophobie interne au monde ouvrier qui sont liées à la concurrence sur le marché du travail et qui sont encouragées, je dirais, par le discours républicain sur la fierté d'être français. Et ce que j'essayais de montrer, c'est comment des discours de ce type visant à encourager le chauvinisme national pouvaient avoir des effets sur des gens qui sont en perdition totale, qui n'ont plus de travail, qui sont humiliés de tous les côtés et qui se sentent du coup autorisés, on pourrait dire, à frapper des étrangers parce qu'ils entendent ces discours sur la fierté nationale. Donc ça, c'est tout ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon livre sur le massacre des Italiens qui s'est produit donc à Aigues-Mortes, pas très loin d'ici, qui me semble tout à fait symbolique, significatif de ce tournant républicain et des effets négatifs de l'identité nationale. Et je dirais que c'est très intéressant parce que Aigues-Mortes, c'est à la fois l'intégration de la Camargue au sein de l'État national et en même temps le rejet des étrangers. On a ces deux dimensions-là qui se conjuguent. Et alors, ce qu'il faut ajouter, ce qui complexifie encore un peu la situation, c'est que toute cette construction nationale que je viens d'évoquer, elle se fait en même temps que se démocratise la société française. Et donc, en même temps que se développe aussi l'économie, en même temps que se développe le salariat, en même temps que s'étoffe le monde ouvrier. Et donc, quand on parle d'identité nationale, moi je dis on peut en parler à condition de le définir ou de la définir comme une identité que j'appelle une identité latente. C'est-à-dire qu'une identité latente, c'est une potentialité, si on veut. C'est-à-dire que nous tous, notre identité personnelle aujourd'hui, elle est faite d'une multitude de références, d'une multitude d'appartenances qui se conjuguent et que nous ne mettons pas en valeur en même temps constamment parce que ce n'est pas possible. Et donc, on voit apparaître ce phénomène à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire on a une différenciation des fonctions, une différenciation des appartenances, et en même temps, j'allais dire que les Français deviennent nationaux, eh bien ils deviennent aussi autre chose, et notamment ils s'agrègent ou ils s'intègrent dans des groupes sociaux, parce que le développement du salariat fait que la vie professionnelle compte de plus en plus. Et donc, la vie politique désormais va changer de sens. Elle va consister en une sorte d'affrontement entre la droite et la gauche pour savoir quel est le principe identitaire qu'on va privilégier. Est-ce que c'est l'identité nationale ou est-ce que c'est plutôt l'identité sociale ? Et le clivage droite-gauche qui se structure en France à partir de l'affaire Dreyfus se positionne autour de ça. Disons qu'on a en gros la gauche qui va se retrouver plutôt proche du pôle que j'appelle social-humanitaire, 1898, création de la Ligue des droits de l'homme, développement du mouvement ouvrier, et la droite va se structurer autour du pôle qu'on peut appeler national sécuritaire. Et cette bipolarisation de la vie politique va perdurer, je dirais, quasiment jusqu'aujourd'hui. Bon, les choses ont un peu changé, mais on a quand même toujours ce type de clivage. Et l'un des enjeux majeurs pour les politiques, c'est évidemment que pour mobiliser un électorat, il faut toucher, comme on dit, la corde sensible. C'est-à-dire qu'il faut savoir développer des discours qui font en sorte que les gens vont se sentir concernés, qui vont toucher leur émotionnel, leur affectif. Et évidemment, à cette époque, nation contre classe, ça structure aussi de deux formes de traumatisme que vivent beaucoup de Français. Ben, le traumatisme social, c'est la grande époque des grèves ouvrières, de la répression. Par exemple, en 1891, à Fourmies, vous avez 8 ouvriers qui sont assassinés par la police parce qu'ils manifestaient le 1er mai. C'est aussi les accidents du travail, les accidents dans les mines, etc. Donc vous avez ce qu'on a appelé le martyrologe prolétarien, que les partis de gauche, les partis du mouvement ouvrier, les syndicats vont capitaliser et vont réussir à mobiliser sur cette base-là, je dirais, la classe ouvrière pour donner naissance au mouvement ouvrier. Et de l'autre côté, à droite, eh bien, les partis de droite vont essayer de mobiliser l'électorat à partir du traumatisme des guerres. 1870, 1914, 1939, à chaque fois, vous avez eu des guerres qui vont réactiver le traumatisme national. Et donc, tant qu'on va avoir, vous voyez, cette violence, je dirais, dans la société, violence sociale, violence politique de l'autre, eh bien, ces discours mobilisant l'identité de classe ou mobilisant l'idée nationale vont avoir un grand impact. Et ça va aboutir au paroxysme des années 30, je n'ai pas le temps là de vraiment en parler, qui est l'antagonisme majeur entre communisme et fascisme, qui sont l'exacerbation, je dirais, de ces tendances, privilégiant donc d'un côté l'identité ouvrière, dans le cas du communisme, et dans l'autre, l'identité nationale. Bon, je ne les mets pas sur le même plan, je ne peux pas entrer là-dessus dans les détails, mais on peut dire dans les formes extrêmes, hein, révolutionnaires, on a ces communismes et nationalismes vont s'opposer radicalement. Alors je voudrais, puisque l'heure tourne, aborder la dernière partie de mon exposé, c'est venir évidemment à l'époque plus actuelle pour voir eh bien qu'est-ce que tout ça est devenu. Pourquoi parle-t-on encore aujourd'hui d'identité nationale alors que évidemment la société française a beaucoup changé par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure. Eh bien, premier point, c'est évidemment les horreurs du nazisme, du régime de Vichy, de la Deuxième Guerre mondiale vont complètement discréditer le nationalisme au lendemain de la guerre. C'est-à-dire que les Français, mais pas rien que les Français, parce que ce dont je parle, évidemment, ça a une dimension qui dépasse largement la France, quasiment mondiale. Eh bien, les Européens, disons, en tout cas, ont découvert que la manipulation des identités aboutissait toujours à des catastrophes. La Première Guerre mondiale, comme vous le savez sans doute, elle avait déjà comme origine des conflits de nationalité. Et la Deuxième Guerre mondiale aussi. Donc, à partir de ce moment-là, les responsables politiques se disent qu'il faut en finir pour toujours avec ces ressorts identitaires qui a fait tellement de mal. Donc il va y avoir, même la construction de l'Europe, si on veut dire, c'est une conséquence de ce phénomène-là, mais aussi tout un mouvement progressiste qui va se développer, je dirais surtout après, à partir de 1962, parce qu'il y a tout l'épisode de la guerre d'Algérie, des luttes de décolonisation qui vont aussi perpétuer encore pendant un certain nombre d'années cette période de violence et cette période de haine raciste. Et puis, mais je dirais qu'entre 1962 et 1983, vous voyez, si vous voulez donner des dates, on a là une période que nous, notre génération a pensé comme étant devant durer éternellement, mais qui en fait, on se rend compte aujourd'hui, était plutôt une étape avant des formes de régression qu'on a connues après. Mais au cours de cette période, c'est vraiment au cours de cette période où on voit un grand progrès des droits de l'homme, une législation plus ouverte, une avancée vers l'universel permettre que les idéaux qui avaient été ceux des militants des générations précédentes se concrétisent sans pour autant, bon, évidemment, régler tous les problèmes. Mais enfin, on a l'impression là qu'une étape décisive est franchie. C'est dans cette époque, notamment après 68, au début des années 70, que les premières lois antiracistes sont votées, etc. Sur le plan politique, il y a une sorte, je dirais, d'accord, on pourrait dire tacite, entre les partis, qu'ils soient de droite ou de gauche, pour cantonner les groupes d'extrême droite aux marges. Les groupes d'extrême droite n'ont jamais disparu de la scène politique, mais voilà, ils sont maintenus en lisière et donc ils n'ont pas d'impact vraiment dans la vie politique. Et il y a un tournant majeur, à mon sens, qui se produit au début des années 80. Je dirais que un certain nombre de jeunes collègues qui ont travaillé là-dessus m'ont contesté en disant qu'on voit ce tournant émerger dès les années 70. Bon, là, tout dépend de ce sur quoi on met l'accent. Hein. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le journalisme, les médias, l'espace public, alors que les collègues auxquels je pense, eux, ont beaucoup travaillé sur ce qui se passait à l'intérieur de l'État, chez les experts, dans les ministères, etc. Mais globalement, disons, au cours de cette période, on voit s'amorcer un changement radical qui, à mon avis, est une conséquence aussi de la victoire de la gauche en mai 81, c'est-à-dire l'arrivée de la gauche avec la victoire au présidentiel de François Mitterrand. La gauche qui, notamment le Parti socialiste, avait beaucoup utilisé la thématique de l'immigration après 68 pour peaufiner une image Parti des droits de l'homme, donc pour séduire aussi les classes moyennes, mettre dans la difficulté le Parti communiste qui avait toujours à gérer dans son électorat des gens qui voyaient d'un mauvais œil l'arrivée des immigrants, etc. Et en même temps, il y a un changement majeur qui se produit au début des années 80 qui relève de l'histoire des médias, du journalisme, c'est-à-dire la libéralisation des ondes et le triomphe progressif de l'information spectacle. La concurrence qui se développe avec la libéralisation des radios, des chaînes télé, etc., va encourager l'information spectacle et l'immigration va devenir un des éléments clés de cette information spectacle. Et ça apparaît dès l'été 81 avec ce qu'on a appelé le rodéo des minguettes, où vous avez des jeunes dans une cité près de Lyon qui s'attaquent à la police, et vous avez les caméras qui sont là à filmer ça en direct, etc., etc. Et donc là, on a vraiment une nouvelle représentation qui se met en place. Et l'un des phénomènes nouveaux, c'est qu'auparavant, la question de l'immigration et la question de la jeunesse étaient des thématiques séparées. À partir des années 80, on a une jonction entre les deux sujets. Et donc, c'est le fameux débat sur les jeunes issus de l'immigration dans les banlieues qui commence à apparaître. Un autre élément lié à la politique extérieure, c'est la révolution en Iran, le début de terrorisme islamiste, etc., qui va aussi alimenter donc, ces représentations négatives. Et on va passer progressivement d'une stigmatisation des immigrants à une stigmatisation des musulmans. Donc il y a ce que j'ai appelé un nouveau virage après la nationalisation de la société française, c'est appelé l'ethnicisation de la société française. Et c'est dans ce contexte-là qu'on voit ressurgir le débat sur l'identité nationale. Alors ce débat sur l'identité nationale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a été initié, lancé par le Front National. L'expression identité nationale, j'ai fait des recherches pour faire l'histoire de cette expression. En fait, elle vient des États-Unis. Elle a été élaborée aux États-Unis dans les années 50, donc c'est National Identity, par un psychanalyste, psychologue, qui est assez connu d'ailleurs, connu pour ses travaux sur l'adolescence. C'est Erik Erikson, qui a publié des travaux sur la crise d'identité chez les adolescents. Erik Erikson, c'est pas son vrai nom d'ailleurs, Erik Erikson, c'est un nom d'emprunt parce que lui-même était issu de l'immigration, bon, et il était très marqué par la problématique de l'assimilation. Donc lui, il est très engagé, un petit peu comme on l'était, comme la gauche l'était à l'époque des années 50, dans une problématique, disons, de favoriser l'intégration des jeunes immigrants. Et donc, il va fabriquer ce concept d'identité nationale sur une réflexion qui est plutôt, vous voyez, progressiste, qui vise à essayer de favoriser l'intégration. Et cette notion d'identité nationale va être après captée en France par des intellectuels d'extrême droite, au départ, dans des mouvances comme le GRES, ce qu'on a appelé le GRES, le Club de l'Horloge, hein, qui sont des petits cercles, hein, dans les cercles des élites du pouvoir, mais qui vont progressivement essaimer et qui vont alimenter le Front National, qui va, et puis aussi le Figaro Magazine, qui va jouer un grand rôle dans le développement de cette thématique. Et progressivement, donc, on va voir cette expression diffusée par le Front National autour d'une thématique. Nous ne sommes plus maîtres chez nous. Donc c'est le discours clé, si vous voulez, de base de cette thématique nationaliste. À toutes les époques, le nationalisme se définit comme ça, c'est-à-dire c'est un courant de pensée qui considère que l'identité nationale est menacée par les étrangers, hein, et donc il faut prendre des mesures pour empêcher et éradiquer cette menace. Et donc à chaque époque, on a une version différente. Je vous ai dit, à fin 19e siècle, c'est le juif allemand, dans les années 30, c'est le bolchevique, donc c'est les communistes téléguidés par Moscou, et bon, aujourd'hui c'est les musulmans, l'islamisme, etc. Il y a donc une matrice qui se reproduit et qui capte évidemment un certain nombre de problèmes qui existent dans la société, bien évidemment. C'est-à-dire la souffrance vécue par une fraction des citoyens, notamment, c'est pour ça que c'est toujours dans des périodes de crise que ces discours-là se développent, le chômage, la difficulté de cohabitation dans les quartiers, le déclassement social, bon, toutes ces questions qu'on connaît bien, sont le terreau sur lequel ces discours prospèrent. Mais je dirais qu'il n'y a pas de différence fondamentale aujourd'hui entre les discours donc, qu'on voit sur l'identité nationale et ceux qui pouvaient être tenus dans les années 30, sauf que les cibles ne sont plus les mêmes et que nous sommes, Dieu merci, dans une société infiniment moins violente qu'elle ne l'était dans les années 30. Dans les années 30, l'extrême droite était révolutionnaire. Elle demandait la fin de la République et l'Action française demandait la restauration de la monarchie, de la royauté. Aujourd'hui, quand on lit le programme du Front National, on peut dire que c'est un parti qui a des arrière-pensées, peu importe, mais quand on lit des textes, on voit qu'ils ne remettent pas en cause les institutions. Fondamentalement, le régime, en tout cas, républicain. Et donc, il y a eu un mouvement d'opposition qui s'est développée contre l'émergence du Front National, contre ses thèses sur l'identité nationale, etc. Mais en même temps, eh bien, ces critiques, cette mobilisation n'a pas vraiment éradiqué ce genre de discours, parce que je crois que justement, ce ne sont pas des discours qui relèvent d'argumentation vraiment intellectuelle, vous voyez, ou rationnelle. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles, depuis quelques années, je faisant aussi mon autocritique en me disant, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce que je fais? C'est-à-dire qu'il faut toujours se poser la question, je pense, quand on est citoyen et aussi chercheur d'ailleurs, des limites de ce qu'on peut faire ou des erreurs qu'on a pu commettre, etc. Et pour ma part, je me suis dit que peut-être l'un des torts que j'avais eu, c'est de trop croire, comme beaucoup d'ailleurs d'acteurs de la scène civique, ce n'est pas répréhensible, de trop croire qu'on pouvait combattre, disons, l'xénophobie et le racisme uniquement par des arguments rationnels. Hein ? On se rend compte, évidemment, qu'il y a beaucoup de choses qui passent par l'émotionnel, qui passent par quasiment des réflexes. Et c'est ce qui m'a incité à travailler justement avec des artistes, parce qu'eux peuvent inventer des langages que nous, on n'a pas appris à mobiliser en tant que chercheurs. Il y a donc là un certain nombre d'éléments aussi de réflexion, d'action, qui peuvent peut-être nous permettre de lier la réflexion qu'on peut avoir sur ce problème de l'identité nationale et les formes d'action qu'on peut développer. Alors, je vais bientôt m'arrêter, mais la notion d'identité nationale a commencé à circuler et très vite, on a constaté que ce que j'appelle les partis de gouvernement, et notamment la droite républicaine, voyant qu'il y avait un potentiel électoral, évidemment, qui était séduit par ce type de discours, eh bien, ont évolué eux-mêmes et ont repris progressivement à leur compte cette expression avec l'argument que il ne fallait pas laisser au Front National le monopole du discours sur la nation. Donc il y a tout un débat, vous savez, là-dessus. Moi, ma conviction, c'est que quand les partis démocratiques reprennent à leur compte des discours ou des slogans qui ont été élaborés par l'extrême droite, finalement, ils apportent une caution. Hein, et ils ne réussissent jamais à donner un autre sens à ces formulations-là. Et je crois que ce qui se passe en ce moment en apporte la confirmation. Et donc, il y a eu un mouvement qui s'est conclu provisoirement, peut-être, mais en 2007, donc avec lors de l'élection présidentielle de 2007, où le candidat de l'UMP, Nicolas Sarkozy, a promis que s'il était élu, il mettrait en place un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. C'est effectivement ce qui a entraîné, de ma part et aussi de mes autres collègues, nous étions huit, qui avions été sollicités à faire partie du conseil scientifique de la Cité nationale d'histoire de l'immigration. Je dis entre parenthèses pour montrer que notre démarche n'était pas politicienne, c'est que la Cité de l'immigration a été créée par Jacques Chirac, mis en place donc par, on pourrait dire, la droite. Et quand nous avons été sollicités, nous avons accepté d'entrer dans le conseil scientifique parce que cette cité, avec une vocation civique, elle a pour objectif de changer le regard, lutter contre les préjugés sur l'immigration. Mais ça nous semblait complètement contradictoire, d'un côté, de mettre en place une cité comme celle-ci, et puis d'un autre côté, de créer un ministère associant immigration et identité nationale. Parce que dans toute l'histoire, c'est pour ça que nous avons été unanimes à dénoncer ça au Conseil scientifique. Parce que tous les historiens qui ont travaillé là-dessus savent bien qu'en France, l'association des mots immigration et identité nationale a toujours eu des effets stigmatisants. Vous voyez, une forme de suspicion ou de rejet à l'égard des étrangers. Donc nous avons essayé d'alerter l'opinion sur ce problème parce que ça nous semblait de notre responsabilité de chercheurs. Et finalement, ce ministère, vous savez, enfin, c'est intitulé, en tout cas, a disparu très récemment, puisque au cours du remaniement, dernier remaniement ministériel, ou de l'avant-dernier, l'expression identité nationale a disparu. Ceci dit, le contenu de ce ministère, enfin là, il faudrait que j'aborde d'autres choses, mais la façon de structurer ce ministère nous pose encore problème, puisque l'un des grands acquis des luttes des mouvements civiques après la Deuxième Guerre mondiale, ça avait été de faire en sorte que la gestion du droit d'asile ne soit plus confiée au ministère de l'Intérieur. Parce que sous Vichy, le ministère de l'Intérieur a livré, vous savez, des réfugiés espagnols, allemands, etc., aux nazis. Parce que il n'y avait pas d'instance de protection vraiment des réfugiés. Donc après la guerre, l'OFPRA, l'Office de protection des apatrides et des réfugiés, avait été confié au ministère des Affaires étrangères. Et avec la création de ce ministère, l'identité nationale et l'immigration, on avait réuni de nouveau les deux, immigration et droit d'asile. Et malgré la suppression, donc, aujourd'hui, de l'intitulé identité nationale, cette séparation entre l'asile et l'immigration n'a pas été rétablie. Donc c'est un motif d'inquiétude pour nous, et je le dis notamment aujourd'hui que vous savez que les expulsions se multiplient, etc. Enfin, c'est un très grave problème, je crois, qui n'est pas évidemment extérieur à la question de l'identité nationale. Voilà, donc pour conclure, je dirais simplement que ce qu'il nous faut penser aujourd'hui, c'est à la fois, comme j'essayais de le faire, l'historicité de cette notion, la longue durée de ces notions de nation, d'identité nationale, qui nous ont amené à remonter, comme je l'ai fait tout à l'heure, jusqu'au XVIIIe siècle, puis en même temps de comprendre la nouveauté, la spécificité de la situation actuelle. C'est pour ça que moi, je suis, en tant qu'historien, je suis très réticent lorsque j'entends des propos nous disant que la police d'aujourd'hui, c'est comme Vichy ou les assimilations à Pétain, etc. Non, là, l'histoire joue un mauvais rôle. Ça nous incite à penser le présent avec les catégories du passé. Il y a des éléments, évidemment, qui peuvent nous faire penser à ce passé terrible des années 30 et de Vichy. Mais nous sommes dans un monde différent. Nous sommes dans un monde, voyez, qui n'a plus grand chose à voir. Et donc, c'est une difficulté particulière que nous avons. Et il y a un déficit, je crois, des sciences sociales pour aussi comprendre la spécificité de cette période. Et cette question d'identité nationale, il faut bien voir qu'elle ne se pose pas uniquement en France. C'est justement l'une des grandes caractéristiques, c'est qu'aujourd'hui, c'est un problème qui se pose, je dirais, pratiquement partout. Et la plupart, d'ailleurs, des décisions qu'on constate en France, en fait, sont des décisions qui sont prises au niveau européen. Il y a donc là une évolution, je dirais, mondiale, internationale. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons un monde... Enfin, une planète qui est de plus en plus mondialisée, avec une ouverture internationale, donc réjouissante sur beaucoup d'aspects, sur les aspects culturels, scientifiques, etc. Et puis, d'un autre côté, un repli politique sur le précaré des identités nationales. Et je dirais même, on pourrait descendre des identités locales ou régionales. Là, j'en ai pas beaucoup parlé, mais dans certains pays comme l'Italie, vous savez que le nationalisme se développe par le biais des identités régionales, la Ligue du Nord, etc. Regardez en Belgique où les Flamands, les Wallons s'opposent violemment, etc. Donc on voit très bien que ces logiques identitaires prennent une place de plus en plus grande, d'où l'importance des interventions civiques et, je dirais, d'un travail de mobilisation de l'ensemble des forces culturelles pour lutter contre ces dérives. Voilà, je vous remercie.
C'était l'Agora des Savoirs.
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Des conférences ouvertes à tous.
La science est un discours.
Le mercredi à 20h30, salle Rabelais à Montpellier et en direct sur Divergence FM 93.9.
L'interrogation de l'être humain.
La création de l'univers. L'univers.
Le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Depuis 2 millions d'années, il se raconte des histoires qui n'ont absolument ni queue ni tête.
Il y a beaucoup de choses en nous.
L'Aristide de Cyrène jusqu'au mur de mai 68.
Que nous ignorons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Bien sûr, ces mots sont familiers au commun des mortels.
La science est un discours. Discours.
Avec quoi est-ce que nous pouvons en connaître? Sinon, avec notre propre connaissance.
L'Agora des Savoirs. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec SORAMS, la maison des sciences de l'homme de Montpellier, Direct Montpellier Plus et Divergence FM.
Vous venez d'entendre une conférence de Gérard Noiriel avec la question « À quoi sert l'identité nationale ?» Prochain rendez-vous de l'Agora des Savoirs le mercredi 23 mars à 20h30 salle Rabelais ou en direct sur Divergence FM avec une conférence de Olivier Tinlan, La vérité, une valeur comme les autres.